France Inter.
Soyez les bienvenus sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Emma Beaujean, Tristan Lopin,
Aldelage, je suis en vie,
Tanguy Pastureau, ça avec nous également, Daniel Morin.
Coucou Tristan.
Et notre invité, c'est Lucien Jean-Baptiste.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadar.
Bienvenue, comment ça va?
Ça va. À titre très personnel, tout va bien.
Ah ben on est ravis de vous accueillir, Lucien.
Oui.
Lucien, pour cette nouvelle série qui s'intitule Joseph.
Voilà.
La crème de la crime. Ça, c'est là.
C'est la crème de la crime, faut le dire avec l'accent.
La crème de la crime, ça, je vais pas me
permettre.
Leïla, tu l'as fait avant l'émission. Tu peux y aller, hein.
C'est pas vrai.
C'était drôle d'ailleurs.
On vous retrouve sur TF1 pour cette série que j'ai adorée. Jeudi 6 mars, 2 épisodes. Et puis ensuite, on a rendez-vous tous les jeudis avec vous, avec ce personnage de Joseph. 6 x 52.
Ce n'est pas si marrant comme ça.
Mais je pense à la crème de la crème.
Ah oui, ça y est.
Vas-y, refais-le, tu le faisais hyper bien.
Et la série que vous réalisez, Lucien Jean-Baptiste, que vous avez écrite, co-écrite avec Sébastien Mounier, avec des guests, on va en parler tout au long de cette émission jusqu'à 12h30 dans la bande originale, et c'est une joie de vous avoir avec nous toujours. Ils sont hyper en forme.
Oui, je vois qu'il y a une belle énergie. C'est ce qu'il faut.
Dans la série,
oui.
Dans cette série qu'on va détailler ensemble, souvent votre personnage est pris pour un autre, et c'est la question que je pose à la bande ici présente. À quel moment Lisa on t'a pris pour quelqu'un d'autre? Anecdote.
Est-ce qu'on m'a pris pour quelqu'un d'autre? Non, mais on m'a
merci
dit.
Lisa.
Non, mais on m'a dit plus d'une fois que je ressemblais à Di de Préto.
Waouh. Wow.
Non.
Si.
C'est pas bien.
C'est
comme
hyper à l'aise. Je sais pas si on lui a déjà dit qu'il ressemblait à la petite râleuse de France Inter, mais voilà, c'est toujours délicat. Je pense qu'il faut jamais dire à quelqu'un à qui il ressemble.
Non,
de manière générale.
Bah surtout là quand ça ressemble pas du tout. Bah, pardon. Oui, non, pas rien
merci,
du tout.
Merci, Leïla.
Bah oui. Non, Tristan.
Bah moi, sans surprise, on me confond régulièrement avec Ryan Gosling.
Et pas forcément avec qui on vous confond, mais qui, avec un jour on vous a pris pour sais pas, quelqu'un qui, donc c'est pas votre job, vous venez pour autre chose, c'est pas forcément confondu avec. Et oui, moi je donne mon anecdote. Quand j'ai commencé par exemple sur iTélé, j'allais pour présenter la première fois, j'arrive en salle de maquillage et l'une des maquilleuses me dit: c'est toi la petite qui vient pour la météo, viens mets-toi là-bas. Et je lui dis non, je viens pas pour la météo, mais parce qu'elle pouvait pas imaginer que je venais pour autre chose que pour la météo. Je venais pour les infos. Bon, ben voilà, c'est tout. Voilà, bon. Et vous?
Et vous, la vie? Moi, une fois, j'allais me faire une manucure et la meuf, elle était hyper... Elle m'intimidait de ouf et j'ai pas osé lui dire que c'était pas moi. Et genre, elle m'a dit, comme la dernière fois, et je dis genre... Oui. Et puis elle a commencé à me parler de ma mère et tout. Et je me suis retrouvée du coup avec des espèces de faux ongles jaune fluo, horrible, avec un shade un peu orange. qu'on embrasse, la petite guette, attends. Voilà. Donc il faut dire aux gens que c'est pas nous quand on pense que c'est nous, je pense.
Oldelaf.
Moi, j'ai eu un très joli à Orly, comme ça, quelqu'un qui passe avec son caddie, qui fait Oh, Aurel San. Voilà, c'était très sympa.
Ouais.
Donc il a confondu
quelqu'un
le nom.
Qui revenait de Colombie. Il a beaucoup consommé local.
Le nom et pas le visage.
Bien sûr, Daniel.
Alors. Pris pour quelqu'un ou que je ressemble à quelqu'un?
Pris pour quelqu'un. Alors, comme tu veux.
Oui, j'arrivais au Mexique. Et... J'arrivais au Mexique et je vois un mec qui d'un seul coup s'affole, me fait signe de le suivre. Il ouvre la porte d'une fourgonnette, un petit van. Il me dit m'installer et tout. Il me demande si j'ai besoin de boire et tout. Il me demande si je vais bien au Palacio ou quelque chose. Je fais ah non, pas du tout. Et après, t'as quelqu'un qui arrive en panique, qui fait non, c'est pas Jean Reno.
C'est vrai, on pourrait l'entendre dans la voix.
Jean Reno,
mais pas. Et vous, Lucien?
Oh, moi, pour pas mal de trucs, le Père Noël, Blanche-Neige.
Évidemment.
J'en ai eu quelques-uns. Mais ça m'amuse. Voilà, on travaille là-dessus.
Parce que dans la série, votre personnage, Joseph, qui mène les enquêtes et qui arrive à les résoudre avec brio, est souvent pris pour quelqu'un d'autre parce qu'il arrive avec ce sourire, cette sympathie, cette bonhomie. Alors, dans cette série, on connaît le meurtrier à chaque fois, dès le départ. Oui. La scène initiale en fait de chaque épisode, voilà, nous montre le meurtre avec plus ou moins de préméditation selon les cas, et on assiste vraiment à la mise en scène, même à la réflexion du tueur, et vous débarquez ensuite sur la scène de crime comme ça, avec le sourire un peu en retard aussi.
Oui, oui, souvent. Ah. Alors c'est pas tant qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre, mais surtout on ne peut pas imaginer que je puisse être un policier.
C'est vrai.
Parce qu'évidemment il y a tous ces clichés, etc. On voit ce petit bonhomme noir qui arrive, donc on se dit non, ça peut pas être le flic. Comme ça peut m'arriver dans la vie, on m'a pris pour le livreur. Souvent, non, c'est pas des bêtises. Oui. Après, je me rends pas malade avec ça. Mais ce sont des choses, voilà, il y a des évidences. Une blonde qui va arriver, on va dire, mais non, ça peut pas être la prof de maths. Vous voyez, on s'est amusé avec ça, avec Sébastien. Et surtout, cette série, la base, il est vrai, c'est l'admiration qu'on avait pour le lieutenant Colombo. Qui, effectivement, n'avait pas cette dégaine de policier. C'est notre ADN, on s'est inspiré de ça. On n'essaie pas de copier parce que Peter Falk est unique dans son genre. En tout cas, on a pris l'ADN et quelques éléments qui font que cette série était culte. Puisse Joseph devenir culte aussi.
Bien sûr, et bien sûr, tout ce qu'on vous souhaite, voilà. Absolument. Merci. On parlera de Colombo tout à l'heure avec Xavier Le
Herpeur. On va le recevoir d'ailleurs.
on va l'interroger. Voilà, on va vraiment l'interroger. Et puis votre personnage aussi n'inspire pas la méfiance. Donc en fait, et comme il parle avec tout le monde, il s'approche absolument de...
remet les choses à leur place.
Voilà, merci bien.
Comme il s'approche absolument de tout le monde, il discute avec tout le monde, on n'imagine pas que c'est la police française et que c'est lui qui va pouvoir mettre les menottes. On en parle de Joseph qui sera sur TF1 à partir du jeudi 6 mars. 2 épisodes pour Joseph, la crème de la crime. Ça me plaît beaucoup.
Allez, fais l'accent.
Une série que vous réalisez et que vous avez co-écrite avec Sébastien Mounier. Mais sachez que dans cette bande originale, vous avez en particulier un fan, et c'est Aldolaf.
Oh, oui. Évidemment. Allez, on le sait, vas-y.
Je suis fan de qui ? Je suis fan de Lucien Jean-Baptiste. Je suis fan depuis que je suis plus raciste. Ça a dû être dur pour vous de vous intégrer. Les gens qui viennent de Bonneuil sont exclus ou bien pompiers. Les pompiers de Bonneuil, merci. Je suis fan de Lucien Jean-Baptiste. Un des recordman du doublage d'artiste. Mais on vous donne à doubler que des comédiens noirs. Est-ce que quelqu'un peut justifier cette histoire ? Et vous êtes avec nous pour la série Joseph, un Colombo de poulet largué en plein Top Chef. Je veux dire un flic hyper malin mais maladroit, qui dans le premier épisode met les pieds dans le plat. Ouais, je suis fan de Lucien Jean-Baptiste. Ses films sont tous joyeux et y a une sacrée liste. Et c'est quelque chose de logique pour ce super artiste. On n'imagine pas Lucien dans la jamba triste. Je me sens définitivement comme une jamba triste. Définitivement.
Allez.
Comme Lucien Jean-Baptiste, comme Daniel Morin qui part au ski passer sa première étoile sur la Côte d'Azur dans un camp nudiste. Tenu par la mère d'Emma Beaujean, sa génitrice coquinette qui lui dit « Dani, tu me fous les poils ! Non mais vraiment, tu me fous les poils partout !» Alors Daniel passe le balai d'Harry Potter et met les poils dans une casserole. Pas de bol, je me sens définitivement, yes. Lucien Jean-Baptiste. Ouais, je suis fan de Lucien. Vous êtes comme Dark Vador. Votre première étoile était vraiment de la mort. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec Mugusa, la bande originale.
Voilà, super, merci beaucoup. Ah,
ça, c'est Aldolaf, direct.
C'est
voilà.
Waouh!
Aldolaf est sur scène, Daniel.
Quand je pense que demain, il va être face à Sheila. j'ai hyper peur. Ah, il est sur scène, bien évidemment. Le 28, il sera à Avoine. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas. Le 1er mars, il sera à Lille. Et le 13, il sera à Odergeheim.
Absolument.
Je voyage.
Oui, bien sûr, c'est ça, c'est comme ça.
Et nous aussi,
avec Joseph, on voyage aussi, puisqu'on va parcourir différents univers. On commence en effet dans le premier épisode. épisode, sans trop dévoiler bien sûr, mais on est au sein des étoilés, des chefs de la gastronomie française. On va se promener aussi dans le monde de la voile, dans le monde du golf, de l'organisation de mariage aussi.
Oui, Wedding Planners avec Alice Paul. Et puis
l'orchestre.
Et
enfin, le 17e siècle. Parce que voilà, on
revisite
l'histoire.
Je voulais faire mon petit
film
historique. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, souvent, tu ne peux pas jouer dans Les Trois Mousquetaires, il n'y en avait pas. Mais du coup, j'ai fait ma propre histoire qui se passe au 18e. Voilà.
Absolument, dans un château avec Hippolyte Girardot, parce qu'il y a des guests par épisode, que ce soit Dounia Cossens, que ce soit Jean-Marc Barr, Alice Taglioni, Alice Paul, Mathieu Spinozzi, et donc Hippolyte Girardot, qui, à chaque fois, sont vos suspects principaux, puisque, voilà, on n'a pas besoin de le cacher, ce sont eux les meurtriers sans cesse, et cette musique qui accompagne aussi l'intrigue. Ça, c'est la musique du meurtre au 15e trou.
C'est Erwan Kermorvan qui a fait la musique.
Meurtre au 15e trou.
J'aime que tu te trahisses par ton rire.
On l'a perdu. Maîtresse.
C'est une déviante.
Et la musique est vraiment super.
Erwan Kermorvan.
Oui, c'est super parce que ça accompagne. À chaque fois, il y a un thème qui accompagne chaque thème de l'histoire de Joseph.
C'est sublime.
C'est un peu Harry Potter.
Ah, je comprends ce que tu veux dire.
Oui, les éditions Hitchcockiennes.
Et je tiens à vous féliciter, Lucien, pour la qualité de cette série, que ce soit en effet sur la dimension musicale, sur l'image aussi.
Oui.
L'image, c'est vraiment une image cinéma.
Oui, complètement. Avec c'est Xavier Doléans qui a fait la lumière. Et moi, je voulais absolument que cette série ait quelque chose d'assez classe. Qu'on ait la sensation que ce flic de petit quartier arrive toujours dans des choses très belles, etc. J'aurais pu dire le grain de poivre dans le bol de lait, mais on va se passer de ça. L'idée, c'était ça, quelque chose de très beau, de très élégant, et t'as ce petit bonhomme qui arrive là-dedans, qui vient dans cet univers.
Alors, ce petit bonhomme, c'est un flic, c'est un policier martiniquais, qui débarque sur son scooter.
Oui, c'est une fois de plus, on a pris les ingrédients de Colombo, lui, il arrivait avec sa 403, son impair, mais nous, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, sans copier, mais quelque chose d'équivalent. Mm-hmm. Et on s'est dit, le petit scooter, le mec, il fallait qu'il soit complètement inoffensif. C'était ça l'idée. Et puis après, une partie d'échecs commence entre le tueur et le flic. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de voir comment ce petit bonhomme, face à des gens plus intelligents que lui, plus forts que lui, plus riches que lui, comment il va arriver à les mettre à terre.
Vous avez choisi comme ça ces univers, justement pour ça, pour confronter votre personnage de Joseph avec des mondes auxquels il n'a pas forcément accès ?
Oui, c'est ça dans un premier temps. Et puis alors, il y avait aussi surtout, je vous dis très simplement, c'est des passions. C'est-à-dire que j'ai mon fils qui aime la gastronomie, qui veut faire de la cuisine, donc j'ai la gastronomie. J'ai une fille qui joue de l'alto, là ça devient très perso, etc. Le golf, moi c'est une passion que j'ai depuis 40 ans. Donc voilà, on s'est amusé avec ça. Et puis surtout, il fallait des endroits où j'ai pas grand-chose à y faire. Des endroits très luxueux, voilà, pour jouer vraiment cette opposition de genre.
Avec un casting autour de vous, j'ai cité les guests pour chaque épisode, mais vous êtes aussi accompagné de Claire Borotra, parce que
mon épouse.
Ce flic a une vie sentimentale, bien entendu, et on va en parler de cette vie sentimentale. Ouais. Il a une mère, et quelle mère ? Firmin Richard.
Oui, j'avais envie. Oui, on change pas une équipe qui gagne. Non, mais
c'est formidable.
Mais elle est tellement, elle symbolise tellement la mère antillaise. Moi, j'essaie toujours dans mes projets de mettre des choses très personnel, voilà, il y en a qui le font sur scène. Moi, j'essaie de le faire dans ce que je produis, ou réalise. Des choses, voilà, assez sincères, proches de ma réalité.
Ouais.
Donc, j'ai un fils qui est comme mon fils dans le film. J'ai une maman qui est comme ça, très présente.
C'est clair.
Voilà, il
est super.
Non, mais ils sont tous super. On va pas commencer à faire la liste. Mais vraiment, j'ai eu de la chance en termes de casting. J'ai eu que des acteurs formidables. Et des acteurs aussi, je voulais ça qu'on n'a pas trop l'habitude de les voir à la télé.
Oui.
Alors, je veux pas créer de scission entre le cinéma et la télé, mais c'est vrai que c'était plutôt des gens qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Puis, je voulais des gens que j'aime. Quand je suis en face de Jean-Marc Barr, quand dans la série je lui dis vous m'avez fait rêver, parce qu'il joue le rôle
d'un navigateur,
eh bien il y avait une part de moi qui disait vraiment Jean-Marc Barr dans le Grand Bleu au fond de l'eau, voilà, quand tu t'es noyé c'est formidable, je lui ai sorti du fond des eaux
quand tu t'es noyé.
Quand tu meurs,
résume, je parle
super,
vite.
Quand tu meurs, c'est super, mais il y a un certain nombre de personnages récurrents, donc que ce soit Claire Borotra, Délice Séclair, Firmin Richard, Christophe Favre aussi,
oui,
qui vous accompagne dans les enquêtes.
Oui.
Et on est avec vous, propulsé dans des endroits avec des réactions toujours inattendues de ce Joseph, et des clichés aussi, des clichés qui entourent ce personnage, parce qu'il y a les clichés que les autres...
Bah, liés à sa couleur, hein, voilà, faut
directement,
faire des
choses, qu'ils ressentent en le voyant, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas soit le considérer comme quelqu'un de futé, soit ils imaginent qu'il est là pour faire la plonge,
quand il
s'agit du restaurant, ou qu'il vient livrer quelque chose, justement.
Bah, même la scène d'ouverture où votre voisin de cellule...
carrément, parce que je suis pas... alors on dévoile, mais ça c'est pas grave, je suis en train de me reposer dans une cellule, et forcément, dans la cellule, et bien le voisin pense que je suis un bagnard comme lui. Voilà, on s'est amusé avec ça, mais c'est avec des choses, alors avec beaucoup d'humour, mais sont vraiment des choses qui me sont arrivées, qui arrivent parfois, mais c'est pas qu'une question de noir-blanc, hein. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, on peut être pris parfois pour quelqu'un d'autre, du fait de son aspect, de sa coiffure, de son look, etc.
Donc, vous avez fait de la prison pour des vrais crimes.
Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, je crois, d'ailleurs.
Sauver la vie, d'ailleurs.
Un flic tout à fait normal. Un flic tout à fait normal. Ouais. Un flic qui n'a pas, qui ne parvient pas à résoudre les énigmes de façon un peu folle. Pas du tout. C'est très, très factuel. Il repère les indices. Donc, on peut suivre. C'est aussi c'est ce qui est important. Et c'est ce qui était important dans Colombo aussi. C'est-à-dire qu'on cherchait à quel moment le meurtrier avait pu commettre un impair.
Vous voyez, on ne lui a pas trouvé de choses particulières comme HPI ou Laurent Super. Non, c'est juste. Lui, il a son petit don d'observation. Oui. Il arrive à faire parler les gens tranquillement, voilà, avec il a sa petite méthode, et en face de lui, ben on lui met quand même des partenaires, enfin des adversaires assez coriaces, et c'est ça tout le plaisir, c'est de voir comment il va réussir à découdre l'enquête et mettre l'autre à mal.
Parfois en bluffant d'ailleurs, parce que tous les moyens sont
bons.
Et il est malin là-dessus, et comme dans Colombo, en réalité, le meurtrier est toujours très très intéressé par l'évolution de l'enquête et il pose quand même beaucoup de questions. Il y a un rapprochement qui se fait entre vos deux personnages, et c'est ça qui est savoureux aussi, parce qu'on retrouve ces vieux codes-là, mais avec du nouveau, avec ce personnage de Joseph qui est vraiment très très chouette et très attachant, ce flic martiniquais qui rappelle sans cesse police française.
Mais oui, c'est vrai que c'est important, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, venant d'un homme noir. On se dit, oui, bon, voilà, souvent on entend les gros clichés, à chaque fois, c'est des problèmes, les sans-papiers, etc. Et moi, je voulais qu'on entende de temps en temps des jeunes ou la France entendre, ben oui, qu'il y a des policiers noirs. Moi, j'ai un cousin qui est commissaire, il est commissaire, vous voyez, c'est tout ça, remettre, s'amuser avec, vraiment essayer de faire bouger un petit peu les imaginaires, si je peux me permettre. Vous savez, pendant longtemps, les policiers, c'était uniquement des mecs, on a eu des grands détectives, Hercule Poirot, etc. Et, ou même à la télé, hein, s'il y avait que des mecs. Et puis un jour, Non, mais c'était vraiment ça, la base. Et puis un jour, on a commencé à mettre des femmes, flics. Il y a eu Julie Lescaut qui a fait une carrière magnifique. On a, c'est toujours essayer de travailler.
C'est une carrière magnifique, mais après, la suite, on n'en parlera pas.
Voilà. Non, mais ce qui a créé d'autres rôles de femmes policières, etc. C'est toujours ça, essayer de faire bouger les imaginaires.
Et ça fonctionne avec ce Joseph qu'on retrouve jeudi 6 mars sur TF1, la première chaîne. La crème de la crime, 2 épisodes par jeudi. Et ouais, mais moi ça me rend hyper la crème de la crime, je trouve ça génial, la crème de la crime, quoi. Vraiment, vous allez passer de bons moments avec ce Joseph en allant dans des univers très différents, la gastronomie, la voile, le golf, l'orchestre, l'organisation de mariage, et puis même une petite remontée dans le temps aux côtés d'Hippolyte Girardot dans le 18e. Donc voilà ce que vous prépare Joseph, Lucien, Jean-Baptiste avec cette nouvelle série. Et nous dans la bande originale, on vous prépare tout de suite Lisa Delmoitier. Tiens. Lisa, vous n'auriez pas fait cette série comme ça.
Non. C'est une série qui donne le tueur, qui donne la chute dès le début. Mais moi, vous me connaissez, j'aime prendre mon temps, balader les auditeurs, les perdre avant d'arriver enfin à la chute de ma chronique où tu te dis... Tout ça pour ça. C'est tout pour moi, à demain. Mais c'est pas une chute ça, Lisa, ou alors celle des audiences. Mais vous, Lucien Jean-Baptiste, on l'a dit, vous avez construit votre série Joseph. Choix du prénom, je suppose, en hommage au cocu originel.
Pas mal. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est le nom de famille de ma maman, tout simplement. Et Joséphine, c'était déjà pris, donc on a pris Joseph.
J'ai pas écrit de blague sur votre mène, on va quand même partir sur Joseph.
Et comme je suis très bavard, au-delà de ça, vous allez la finir la chronique, vous inquiétez
c'est
pas.
C'est gentil,
Joseph, c'est un prénom qu'on retrouve dans les trois religions monothéistes. Ah, voilà. Donc c'est important de
droit. Lucien,
bien sûr.
On en parlera plus tard. Pardon, Lisa.
Vous savez donc qui est Joseph.
Oui.
C'est le goat du « Je crois que ma femme me prend pour un con ».
Oui.
Joseph, c'est impossible que Dieu ait fait un enfant avec Marie sans lui avoir fait l'amour, à moins que Dieu soit un père célibataire et on fait appel à une mère porteuse en la personne de Marie, confirmant ma théorie sur laquelle Dieu est gay. Je rappelle qu'il dessine des arcs-en-ciel dans le ciel. Les amis, ouvrez les yeux. Mais bref, assez parlé de Joseph le cocu ou... le nom de votre mère. Parlons de Joseph le détective. Hein. La série fait écho à Columbo. On a dit programme dans lequel on connaissait l'identité du coupable dès le début, mais ça n'empêche pas les épisodes d'être captivants quand on s'intéresse à l'enquête ou qu'on est complètement con et qu'on oublie toutes les 5 minutes qui est le coupable. Dans les deux cas, il y aura de l'audience. Alors voilà, j'ai voulu moi aussi écrire une chronique à la Columbo ou à la Joseph en vous annonçant d'ores et déjà la chute. Ce sera « On peut plus tronçonner personne ».
Ok, voilà. Entendu.
Il y a quand même des différences avec Columbo. Bien sûr, Joseph, il a une mère, il a une femme dont il est censé se séparer. Il y a un ado, tout ce qu'il y a de plus ado, casque glissé sur les oreilles. Notre Joseph, il est dévoué à ses enquêtes, il compte pas ses heures. Pourquoi a-t-il une telle éthique de travail, me le demandez-vous? Je viens de vous le dire, il a une femme dont il doit divorcer et un ado à la maison.
Oui,
il n'y a pas plus productif qu'un homme qui fuit le domicile conjugal. Hein. C'est la pierre angulaire de notre société capitaliste. Enfin, j'en serais tellement plus loin dans ma carrière si mon mariage s'effondrait. Problème, je n'ai pas de mariage à ruiner. Donc voilà, ceci est une annonce. Chers auditeurs, je cherche un homme qui accepterait de m'épouser pour ensuite me pousser à bout, hors du domicile, là où les rêves se réalisent. Ce qui est sympa avec votre Joseph aussi, c'est qu'on ne le voit pas arriver. On l'a dit, c'est le gentil policier dont on ne se méfie pas. Il faut se méfier des gentils policiers. Cela dit, il faut aussi se méfier des méchants policiers.
Oui.
Je crois qu'il faut se méfier des policiers. Il est sympa, il est enthousiaste, il est de bonne humeur, il est issu d'une classe sociale inférieure aux personnes sur lesquelles il enquête. On a donc du mépris de classe auquel s'ajoute, on l'a dit, un petit racisme ordinaire.
Bah ouais.
Ne pas confondre avec le racisme exceptionnel. Ça, c'est quand c'est très très bien fait.
Ouais.
C'est pour les spécialistes. Moi, je trouve ça terrible, l'expression racisme ordinaire. C'est une réalité, hein. C'est le racisme accepté, comme quand je demande à Leïla, la machine à café, mais tu viens d'où?
Oh là là.
De Poitiers.
Oui.
Oui. Mais tu viens d'où? De Poitiers, Lisa, de Poitiers. Ouais. Oui. C'est ce fameux racisme qui fait que si la personne t'accuse à juste titre de racisme, tu peux juste dire « Ah, ça va, on peut plus rien dire ». Mais quand tu penses, c'est horrible l'expression « ordinaire ». Le racisme, c'est le seul délit qui a une version tout publique. Il n'y a pas de meurtre ordinaire.
Ouais.
Même dans la série Joseph, tu ne peux pas buter quelqu'un puis dire « Ah, ça va, on peut plus tronçonner personne
». C'est prétend woman. Bravo Lisa. En effet, le personnage est confronté à du racisme ordinaire, Lucien.
Oui.
Et il est dans une situation aussi sentimentale un peu complexe. Il est marié à Claire Borotra. Mm-hmm. Ils ont un ado ensemble. Et c'est un couple qui ne parvient pas à se séparer.
Oui, on avait envie, avec Sébastien Mounier, on avait envie de s'amuser avec ça. Souvent, les flics, ils sont torturés. Enfin,
oui.
Ils ont des problèmes. Soit ils ont un enfant qui est mort, soit des choses assez tragiques. Et moi,
j'ai dit,
prenons le contre-pied de tout ça. Souvent ils sont suicidaires aussi, parfois ces flics. Et prenons le contre-pied de tout ça, amusons-nous avec ces histoires de couple et faisons un couple qui n'arrive pas à se séparer, donc qui se voit encore. Et puis au-delà de ça, c'est l'amour dure combien de temps, c'est tout ça, voilà.
Ouais, c'est ça. Donc ça donne lieu à des scènes de comédie parce qu'il y a en effet l'enquête. Et puis au sein de l'enquête, de toute façon, il y a des scènes de comédie. Et puis il y a cette vie sentimentale qui évolue d'épisode en épisode. On voit comment votre mère, incarnée par Firmin Richard, essaye de vous caser aussi parce qu'elle considère que la séparation a bien eu lieu et donc elle tente de vous présenter des prétendantes.
Vous savez, on dit souvent une mère antillaise, c'est 10 mères juives. Et la mienne, c'est 20. Et ce qui est formidable.
Elle est géniale.
Voilà, donc je me suis amusé avec ça une fois de plus. Hein, elle veut absolument le caser, c'est son truc. Le mec, il a passé 50 ans, mais c'est son objectif. Elle veut sûrement d'autres petites enfants ou me voir équilibré. Donc, avec Firmin, vraiment, on s'est énormément amusé avec ça. Et aussi, le délice, mon fils, avec lui, on s'est amusé aussi à parler de la nouvelle génération, les portables, voilà.
Permet de résoudre des enquêtes, d'ailleurs, ce jeune homme, en expliquant ce que peut être le cloud, notamment, et plein d'autres choses. Mais je reviens quand même au personnage de la mère, la grand-mère, Firmin Richard, qui quand même, dans le premier épisode, si on peut en parler un tout petit peu, est invitée dans le restaurant gastronomique. Et là, moi, elle m'a fait hurler de rire, parce que c'est la réaction de plein de personnes face à des assiettes un peu épurées, où il y a à peine 2-3 trucs à manger, un bout de fleur, une petite goutte de sauce.
Ah là, je gifle.
Tu manges l'assiette, quoi.
Qui ne peut pas comprendre, en fait.
Le truc aussi, ce que j'expliquais à TF1 lorsqu'on leur a présenté la série, c'était aussi de faire découvrir des univers différents aux gens rentrés. Moi, je pose des questions de façon très naïve, etc. Mais ce sont des vraies questions sur les différents milieux. Et la gastronomie, il est vrai que dans le film, mon personnage lui dit, mais comment font les gens? Ça coûte un bras. On nous abreuve à longueur de journée de ces restaurants, mais moi, c'est très difficile de de s'offrir ce genre de choses. Voilà, et puis souvent dans l'assiette, tu fais ah ouais, d'accord. Et ça, c'est combien? Ah ouais, 100 euros. Enfin, vous voyez, c'est, oui, c'est tout ça. On avait envie de parler de tout ça.
Et elle réclame un manger-chien.
Oui, 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 oui. Ah oui.
Alors, le manger-chien, moi, j'ai découvert ce que c'était que le manger-chien.
Ouais, ouais, aux Antilles. Bah, c'est un doggy bag, hein. Ouais. Enfin, c'est, tout simplement.
Je ne savais pas.
Aux Antilles, on dit ou sac à chien ou manger-chien. Qu'est-ce que l'anti-manger-chien pour moi? C'est le fameux doggy bag. Alors, vous voyez, en français, ça sonne sac à chien. Bon, ben, on le dit depuis des années.
Sac à chien.
Et voilà, et ce qui va aider à l'enquête, on fait pas.
Ça va aider bien sûr à l'enquête. Ah ouais, bah oui, elle est centrale aussi. Chaque personnage, en fait, dans votre environnement, vous permet d'élucider ses meurtres, ses affaires. En effet, c'est un flic qui passe son temps à réfléchir aux affaires, quitte à délaisser un petit peu certains aspects de sa vie personnelle. On va dire que c'est la charge mentale, c'est pas tant lui qui l'assume.
Pourquoi vous dites ça?
Bah, parce que sinon.
Parce que c'est un mec.
Parce qu'il est souvent en retard au rendez-vous, notamment.
Oui, oui, oui.
Et que, alors on répond moins, Michel.
Il privilégie la société à la famille. Enfin,
oui, c'est une façon de
sauver,
dire. Ouais,
sauver le monde.
Ouais,
sauver le monde ou sauver le monde.
Ouais, commence par s'occuper de ton fils.
Ça
se pas du tout.
C'était pas pour vous, ça. C'est un nom,
je sens que c'était adressé à quelqu'un d'autre.
Non, pas du tout.
On embrasse Jean-Louis, ton mari.
Donc ce Joseph, on le retrouve avec plaisir. Présenter la série à TF1, quel a été le pitch initial, la volonté initiale, Lucien Jean-Baptiste?
Je leur ai dit Colombo. Voilà, ça a été le point de départ.
Normalement, ça ouvre les portes, Colombo, ou au contraire, ça pose des questions.
Non, ça ouvre les portes, et surtout, ils ont compris, peut-être en me voyant, ils se sont dit, bah ouais, tu feras un bon flic inoffensif. Et je remercie vraiment, je tiens à le dire, TF1, Anne Didier et Léa Coquin, qui ont joué le jeu. C'est-à-dire que, je leur ai dit vraiment, je veux des acteurs, qui coûtent forcément un petit peu plus cher, qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Je veux de la belle image, donc tout ça coûte un peu plus d'argent, et donc les producteurs aussi, je les remercie, parce qu'ils ont joué le jeu et du coup on a quand même une série, vu de qualité. Je voulais pas me moquer des téléspectateurs, donc on a mis le paquet et ça s'est bien passé.
Et je confirme, alors depuis un certain temps de toute façon, on sait que les séries ont rattrapé une forme de retard par rapport aux films, et que maintenant le soin apporté aux séries est différent, mais je dois dire vraiment que Joseph là monte d'un cran, que ce soit en effet dans le casting, dans l'image, vraiment dans la qualité de l'image, dans le soin apporté aux musiques et puis aussi aux intrigues que vous avez donc co-écrites avec Sébastien Mounier,
c'est bien cassé la tête.
En prenant toujours donc le même canevas, est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez insérées ça et là en espérant que le spectateur soit plus attentif à certains moments? Moi, ce que j'ai repéré, c'est que souvent on fait la remarque à votre personnage, mais où t'étais dès le début de l'enquête, on l'attend tout le temps. Je me suis dit, est-ce que c'est un cliché sur le côté genre le Martinique est
en retard? Oui, bien sûr, on s'amuse avec ça. Il faut partir du cliché pour le démonter, c'est pas donc moi je me suis amusé avec tout ce que j'ai pas l'habitude de voir sur un acteur antillais, donc avec Sébastien on s'est dit on y va, jouons de ses contre-pieds, jouons de tout ça, donc et comme ma femme, vous voyez, ma femme c'est, elle est dans la finance ou avocate, voyez, je voulais vraiment sortir de tous ces clichés. C'est le moment, c'est TF1, c'est une des chaînes les plus vues en Europe, donc s'il y a un endroit où on peut être entendu, j'ai voulu aller là. Et puis aussi ce que je voulais dire par rapport à la qualité de la série, aujourd'hui il y a des séries partout, c'est vraiment poigne. Moi je suis impressionné, en fait, dans toutes ces nouvelles plateformes, et là je dis si on vient sur TF1, il y a aussi ce côté concurrentiel. Donc les ricains, quand ils nous envoient une série, tu vois le truc, c'est monstrueux, c'est 15 fois mon budget. Et donc j'ai dit essayons avec nos petites armes, notre créativité, notre imaginaire, d'aller concurrencer ces gens-là.
Et bien, c'est réussi, c'est Joseph, à partir du 6 mars sur TF1. On peut en ligne ensuite les revoir aussi.
On est en 2025.
Le replay fonctionne.
On peut le voir plusieurs fois.
On peut le voir plusieurs fois. J'ai pas à préciser qu'il y a notre camarade Jérémy Crédville dans le deuxième épisode.
Oui, Jérémy, formidable. Voilà. Je l'observais ici, je disais lui.
À qui on offre toujours des rôles de salaud, à chaque fois.
Non, il n'y a pas une série. C'est le mal.
Non plus.
C'est le mal ordinaire.
Non, j'étais ravie de le voir et je me suis dit
qu'il a une tête de fumier.
Et je le dis vraiment à ce micro, c'est un acteur exceptionnel et vraiment, je lui souhaite une grande carrière parce que c'est quelqu'un que j'adore. J'aimerais vraiment que ça devienne une espèce de nouvelle grande star de cinéma français. Il bosse super bien, il a un charisme de dingue. Donc voilà, c'est dit. Jérémy, I love
you. Jérémy Crédville, dans le deuxième épisode. Donc vous pourrez le voir sur TF1 dès le 6 mars aux côtés de Jean-Marc Barr dans cet épisode-là, mais aussi d'Alice Taglioni qui incarne cette responsable de golf un petit peu collée montée.
Ouais, Hitchcockienne. Je voulais ma blonde Hitchcockienne.
Oui, oui. Qui essaie de démonter chaque question que votre personnage pose en mettant ça sur le compte du hasard ou de la maladresse. Alice Paul aussi rayonnante. Alice... Ah ouais, Alice Paul. Là, voilà, dans le casting aussi, qui est cette organisatrice de mariage.
Wedding planner.
Wedding planner, voilà, exactement. Mathieu Spinozzi.
Incroyable, Mathieu Spinozzi, ouais. Fils de Jean-Christophe Spinozzi, grand chef d'orchestre, et son fils, et Mathieu, est violoniste. Mm. Donc, c'est ce qui était formidable, comme j'avais besoin d'un acteur et qui sait jouer du violon, là, on a la totale. Il a joué divinement bien, c'était magnifique. Tout ça apporté en véracité, puis en qualité. Voilà, c'était le but vraiment de ne pas se foutre de la gueule des téléspectateurs.
Dans un univers aussi qui est un peu cloisonné, l'orchestre, ouais, qui est un monde comme ça feutré, où il y a sans doute des conventions et des choses qui ne se disent pas, et ça fonctionne très bien. Et enfin, Hippolyte Girardot, perruque, costume et le Puy du Fou, quoi.
Mais Non, voilà, je voulais une histoire. Non, mais vraiment, je me suis. Avec Sébastien, on s'est énormément amusé parce que vraiment, de se dire, tiens, allez, on va aller se balader dans le 18e, pas le quartier, hein, parce que. Genre, ah ben oui, c'est normal qu'il aille dans le 18e. Mais non. Je suis con.
Tout seul,
tout seul.
Non,
mais
j'aime bien, moi.
On peut le laisser, les gars, on va voir.
On se gère. Ça y est, c'est. Non, voilà, oui, je vais faire mon petit film historique. Moi, ça, je me suis tellement amusé, ces gens, costumes d'époque et tout ça. Et je viens plonger là-dedans avec beaucoup d'allégresse et de plaisir.
Bon, et ben ça, c'est une réjouissance avec vous, Lucien Jean-Baptiste. Ce Joseph est tout de suite dans la bande originale. C'est Tristan Lopin. Bravo.
Attention, j'ai une grande nouvelle pour toutes les personnes en couple. À la suite de la Saint-Valentin, on a décidé avec mon mec qu'il fallait qu'on pimente un peu notre relation, qu'on donne un nouvel élan à notre vie sexuelle. Oh. Alors non, Lisa, on ne cherche toujours pas à coucher avec une femme. Mais là, faut commencer à respecter la mesure d'éloignement. Alors, je précise que je n'ai absolument rien contre le genre féminin. Je crois même que le problème, c'est que je vous aime trop.
Ah bon.
J'aurais peur de vous manquer de respect. J'ai l'impression que vous avez déjà fait tellement de mal. Alors que coucher avec un mec, ça me donne un peu l'impression de baiser le patriarcat. Moi, je suis féministe. Aujourd'hui, je considère qu'aimer la bite dans mon cas, c'est presque un acte militant, quoi. Bref, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. Forcément, il y a une routine qui s'installe. Oui, Emma, la routine existe. C'est quelque chose qui va finir par t'arriver un jour aussi. Je sais que toi, tu t'envoies en l'air comme jamais avec ton nouveau petit mec. Elle arrive tous les jours à la maison de la radio, heureuse, sourire aux lèvres, les jambes arquées comme si elle passait un casting pour incarner Lucky Luke. Tu m'agaces, Emma. Tu dois pas être un peu frustrée comme tout le monde autour de cette table, merde. Alors oui, en couple, on est très heureux pendant un temps, on ne se pose pas de questions, et puis un jour tu te retrouves à taper comment pigmenter son couple sur Google, à acheter des sous-vêtements en bonbons pour rappeler à l'autre qu'il n'y a pas que la pénétration dans la vie, ou à regarder du porno à deux pour avoir un peu l'impression de coucher avec quelqu'un d'autre sans tout à fait tromper son partenaire. C'est terrible, hein, d'ailleurs, parce que devant un porno, il y a tout un moment où tu es super ok avec ce qui est en train d'arriver à la personne au milieu de la pièce, et puis alors dès que tu es arrivé au bout de ta démarche personnelle, dès que tu as joué, quoi, cette culpabilité qui nous envahit, mais qu'a fait ce pauvre individu dans une autre vie pour mériter qu'on s'acharne dessus à ce point-là. Et des lecteurs porno, c'était des putains de collabos dans une vie intérieure, ce n'est pas possible autrement en fait. Bref, avec mon mec, on a décidé de passer au jeu de rôle pour pimenter notre vie sexuelle. Donc chaque semaine, il y a une thématique différente. La première semaine, je vous avoue, ça a été un échec. On a fait chanteur célèbre avec deux homosexuels. On s'est retrouvés avec Taylor Swift et Britney Spears. On a juste pas du tout Ken. On s'est raconté des secrets. Et puis la semaine dernière, on a fait cinéma. Donc sympa, sauf que clairement, on n'est absolument pas sur le même genre d'univers. Lui, il est dans une ambiance très Marvel, fin du monde. Il y a du Harry Potter, coupe de feu, ça saute dans tous les sens. Il me fait faire la toupie et des drones dans l'appart. Daniel en tenue Spider-Man qui nous mate depuis sa toile dans un coin de la pièce. Enfin, il y a de l'action. Alors que de mon côté, moi, cinématographiquement parlant, je me situe vraiment plus proche d'un univers auteur. Moi, en ce moment, sexuellement parlant, j'ai clairement plus d'acquaintance avec l'univers de Jaoui et Bakri. En gros, ce qui excite mon mec, c'est la fin du monde, l'idée que c'est peut-être la dernière fois qu'on fait l'amour. Et moi, c'est vraiment de boire des verres dans une cuisine, parler, fumer des clopes et comparer nos posologies de Xanax, quoi. Donc, notre méthodologie est toujours en cours, mais là, cette semaine, on teste un truc pas mal. La thématique, c'est l'info. Donc, lui, il fait de la housse. Moi, je voulais faire Layla.
Mais
on n'a pas le droit aux collègues.
Ok, c'est bien. Ça m'arrange.
Je suis Pascal Pro. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il se passe un truc intéressant. Juste, j'espère ne pas rester trop longtemps dans le rôle, parce que sinon, la semaine prochaine, je serai en train d'interviewer Yann Moix, et là, c'est l'enfer.
Voilà. Laurent Lopin et le cinéma d'auteur, pas que.
En tout cas, c'est vachement bien ce qu'ils font.
Ouais. Dis Spider-Man. On va s'intéresser aux musiques de votre vie, Lucien. Oui. Bien sûr, votre bande originale, on commence en 85. Live if you wanna live. Rastaman. Vibration.
Ça fait vraiment plaisir de
l'écouter. Et si vous fermez les yeux, vous vous revoyez où à ce moment-là en 85?
Je me revois dans ma cité. Et a vraiment commencé.
Où ça, votre cité?
Bonneuil, le 94. J'ai fait 93 et 94.
Le 94.
Ouais, 94, 93, 94. Et Bob Marley était déjà commencé à être là. Et vraiment, j'ai découvert ses textes et ce mec incroyable qui est parti, pareil, d'une petite île au fin fond de la Jamaïque. Et il a réussi à prendre la planète. Et je dis, bah, c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Alors, je suis pas joueur de reggae, je fais des films. Non, il a été très inspirant pour moi, ce grand monsieur. Pour moi, c'est le plus grand.
Et si on remonte un peu le temps et qu'on parle de votre enfance, elle ressemblait à quoi, votre enfance?
Waouh, beaucoup de délire, beaucoup de questionnements. De délire, parce que on courait partout, j'étais un petit garçon, vous voyez, toujours tonique. Un petit peu tonique. et beaucoup d'interrogations. Beaucoup. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette cage? Pourquoi j'ai quitté mon île ensoleillée? Pourquoi on est six? Pourquoi il n'y a pas mon papa? Pourquoi... Plein de questions. Pourquoi, quand j'arrive à l'école, voilà, je me prends des vannes, cheetah, etc. Pourquoi j'aime courir? Pourquoi je n'ai pas joué au football, mais j'ai fait de la lutte? Voilà, plein d'interrogations.
Pourquoi vous avez fait de la lutte?
Ben, parce que ma mère a galéré pour me trouver l'argent pour jouer au foot. Et quand je suis allé m'inscrire, c'était trop tard. Et j'ai un petit voisin, qui s'appelle Luc Dalle. Je suis un petit peu ému parce que j'écris un film en ce moment là-dessus. Bref. Oui. Et sur cette période 70-80. Et il m'a dit, ben, viens faire de la lutte. Et j'ai aimé ça. Et donc, je ne suis pas devenu Lilian Thuram. Mmh. Voilà.
Vous dites que souvent on enterre nos rêves de gosse dans des terrains vagues.
Ouais. Et alors maintenant ça va mieux parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, en banlieue il se passe des choses formidables aussi, il faut le dire. Mmh. Mais à mon époque, on avait l'impression d'avoir un mur. Je me souviens, les conseillers d'orientation qui en troisième avaient dit à ma mère, vous voulez toucher un salaire en plus dans 2 ans, inscrivez votre fils en CAP mécanique. Moi je pleurais évidemment, ma mère disait, mais le monsieur il sait mieux que toi avec cet accent. Et j'ai dit, mais maman, moi je vais être interprète ou faire de la comédie. Et le mec insistait, non, faut qu'il fasse un CAP mécanique. Donc il y a eu des espèces de barrières. Alors sûrement peut-être pour, je sais pas, la France devait manquer de main d'œuvre de mécano à cette époque. Je dis tout ça avec beaucoup d'humour. Mais voilà, essayer de sortir de ces autoroutes dans lesquelles on veut mettre souvent les gens qui viennent d'ailleurs.
On passe à l'année.
Révolution.
Ouais. On vous suit. 2012 à présent. Allez, on la passe en entier.
Écoutez celle-là.
C'est
le petit chaperon noir. Les aiglons. Ça, c'est toute mon enfance.
Alors les aiglons, rien à voir avec la série de Jean-Marc Morandini.
Et c'est dommage, on n'arrive pas à... Alors donc c'est le petit chaperon rouge version créole évidemment, et à un moment il va lui demander, pourquoi as-tu ce gros zizi là? Zizi. Dommage, on n'a pas le refrain, ça.
Non,
j'ai choisi cette chanson aussi.
On peut l'obtenir, ce refrain.
Parce que c'est 2012, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, ce zizi, c'est pour la faire chanter, pour la faire... Voilà.
Ah, c'est une version petit chaperon.
Voilà, créole. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi cette chanson, c'est important, c'était la musique du film 30 degrés couleur. Voilà.
De Philippe Larue.
Voilà, et Lucien Jean-Baptiste.
Et oui, bien sûr, que vous réalisez ensemble, voilà, absolument. Ouais. Ouais. L'histoire d'un historien.
Ouais.
Né aux Antilles.
Oui. Qui part gamin en France et qui devient un grand historien et sa maman est sur le point de décéder aux Antilles. Il doit retourner aux Antilles 20 ans plus tard. Et là, bah, c'est le choc. Je voulais parler de cette difficulté du retour, de savoir où on est quand on est déplacé comme ça. On n'est pas complètement français, on n'est pas complètement martiniquais. Enfin, on est complètement français, mais voilà, on se cherche un petit peu. Il y a des questions d'identité. Et quand il retourne aux Antilles, il arrive, c'est le carnaval. Et là, c'est la folie. C'est le,
oui. Voilà, il arrive dans une foule, dans un monde un peu fou. La question du sol, de l'ancrage au sol, c'est une question qui se pose aussi quand on décide d'être enterré quelque part.
Oui, c'est des grandes questions. Ce film 30 degrés couleur, on l'a écrit parce que ma mère un jour m'a dit, surtout mon fils ne m'enterre jamais à la Martinique. Ce qui était d'une violence rare. Moi, qui disait, moi, l'identité Martinique.
Oui,
et
tout
ça. Je lui dis, mais pourquoi maman? Elle m'a dit, j'ai connu trop de misère. Voilà, parce qu'elle est née en 1929, ma mère, donc je peux dire qu'à l'époque, même aujourd'hui, ça continue comme tu veux. Ah oui, à ce propos, bravo pour le combat pour la vie chère. Je sais pas si ça passera, mais enfin, faut le dire. Parce qu'il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Voilà. Donc, on disait quoi?
Donc, la question s'était posée de savoir où votre maman voulait reposer et à quel sol on veut appartenir. Voilà.
Et en même temps, elle nous a construit une jolie maison parce qu'elle a dit, c'est aussi votre terre, ce pays, et je veux pas que vous y alliez en touriste. Vous voyez,
et
on
vous
est plein
allez,
de.
Et vous
est...
y allez
ah,
souvent?
Oui, tous les ans. Oui, là, je me prépare à aller pour le carnaval, là. On va sortir les robes et tout, ça va être quelque chose. C'est important. C'est important d'entretenir la culture. Et puis aussi, essayer de rencontrer quelques personnes pour parler de toutes ces questions. Si ma voix peut aider à porter ce qui se passe avec monsieur Petitot, qui est enfermé, etc., qui a simplement essayé de dire des vérités. Alors oui, il y a des effets collatéraux, évidemment, et je suis pas pour les dégradations, tout ça. Mais ce qui se passe en Martinique depuis, pas mal quelques siècles, on va dire. Il y a un moment, il faut... Vous savez, les fruits de l'histoire n'ont pas le même goût.
Il faut régler
pour certains,
les choses.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est fini, c'est le passé. Oui, mais il y a des fruits qui sont tombés et certains ramassent des choses belles, juteuses, et puis d'autres, ils ont les noyaux pourris.
On passe à l'année 2013. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. Lucky,
oui.
Daft Punk.
Oui, avoir de la chance. Et puis ça fait du bien, hein, à cette heure-là, 11h un petit peu. Oui, voilà, c'est... Voilà une période joyeuse, la carrière...
En 2013, vous avez beaucoup de films.
Voilà, beaucoup de travail et tout ça. Donc j'ai de la chance, mais c'est le travail aussi. Beaucoup de travail. Et puis qui n'a pas dansé sur Get Lucky?
Non, bien sûr. Même moi, je pensais vous dire.
Non, moi.
Vous êtes à l'affiche de Je fais le mort de Jean-Paul Salomé, de Fonzie d'Isabelle Doval, de La vraie vie des profs d'Emmanuel Klotz et de Turf de Fabien Otoniente. Ouais. Cette année 2013, 4 rôles, 4 films. Comment est-ce que vous vous sentez distribué dans les films? Est-ce que là, dans les propositions, il y a un rôle en particulier que vous voulez retenir et dont vous voulez nous parler?
Vous avez donné quoi? Turf,
La vraie vie des profs, Fonzie et Je fais le mort.
Fonzie. Ah, Je fais le mort, c'était bien aussi parce que je faisais un flic à la montagne et ça me changeait de faire le pauvre type à la montagne. Et mais Fonzie pour la rencontre avec José Garcia.
Ouais.
Parce que je sortais d'un tournage assez difficile où j'avais rencontré des acteurs. Enfin bref. Et non. et José est vraiment, il est exceptionnel, ce garçon, humainement.
Ouais.
Humainement, parce que vous savez, il y a plein de mecs, on peut le dire, dans ce métier, qui ont le melon. Mm. Et lui, malgré sa qualité d'acteur, sa popularité, le mec reste d'une humanité. Et il m'a fait énormément de bien. Mm. Énormément de bien. Et on s'est entendu, on était... Et puis ce personnage Fonzie, c'est l'adaptation d'un film canadien. Et je faisais un avocat qui conseillait son pote, enfin qui avait eu 533 enfants. Mmh. Et c'était vraiment un chouette rôle, une reprise d'un rôle québécois. Et j'avais beaucoup de pression. Et avec José, on y est arrivé. Avec lui, vraiment, il est exceptionnel. Voilà.
On passe à l'année 2016.
Rêver.
Qui n'a pas dansé là-dessus?
Qui n'a pas dansé?
Moi, la nouvelle phrase des Daft Punk.
Écoutez ça, c'est comme vous l'avez déjà entendu.
Brûlé d'une possible fièvre.
Et on vous retrouve dans Dieu merci.
Je peux dire un mot? Oui, sur Dieu merci. Ouais, c'est
oui,
ça,
vous réalisez votre troisième film. Allez-y. Non,
oui, Dieu merci. Ça, c'est la musique de fin du film Dieu merci qui raconte l'histoire d'un mec qui sort de prison et qui veut devenir acteur. Alors, je suis pas sorti de prison, mais je suis sorti d'une espèce de. On parlait de cette fameuse cage pour vivre mes rêves. Et ce film parle de ça. Et la quête est sublime pour commenter ça. C'est un film qu'on avait écrit avec Grégory Boudboul et Véronique Arménakian.
Casting.
Et puis Baptiste Le Caplain.
Baptiste, Michel Jonas. Firmin Richard déjà.
Ah oui,
toujours.
Oui, toujours. Il en faudrait d'autres.
Et puis il y a aussi un documentaire à cette même époque. Pourquoi nous déteste-t-il, nous, les Noirs, diffusé sur Planète Plus, qui avait fait beaucoup de bruit.
Oui. Oui, oui, c'est un comment on appelle ça, une collection oui. qui avait été lancée par Alexandre Amiel, Caméra Subjective, où voilà, il prenait, il y avait un juif, un arabe, une arabe et un noir, et on posait cette question, pourquoi nous d'être ce style. Donc l'idée c'était d'aller, alors moi je voulais pas au début, hein, je vous dis la vérité, aller affronter, rencontrer des fachos. J'avais rencontré le monsieur de l'Escar, bon, j'ai fait un peu de pub là, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça.
C'est l'ancien patron de Radio
Radio Courtoisie.
La rencontre était improbable.
Ouais, et j'avais dit Alex, non, moi je veux pas rencontrer de fachos, tout ça, ça m'intéresse pas. Il m'a dit, mais si, il faut y aller. Moi je disais, je passais par la fiction pour raconter, poser ces questions.
Vous êtes confronté au réel.
Ouais, et c'était complètement fou, quoi.
Lunaire.
Lunaire. Après, moi, qui ai beaucoup d'empathie, je comprends, il est d'un autre temps, et le pauvre, il a oublié que la Terre tournait, qu'on bougeait, qu'il n'y a plus de dinosaures.
C'est ça que j'aime bien chez vous, c'est ce que j'aime bien chez vous.
Oui, il n'y a plus de dinosaures, et je suis désolé, j'aimerais lui dire, écoutez, il y a un dinosaure qui vient d'appeler, il fait la gueule parce que le monde a changé. Bah oui, le monde a changé.
Olivier, oui.
Et le fait, par exemple, que Leïla soit déguisée en banane, là, aujourd'hui, ça
non, moi, je dis un poussin, vous voyez, c'est vraiment...
Ça dépend de l'amour qu'on a dans le regard.
Ça, c'est vrai, tout à fait.
Et je viens de mesurer le tien, Oldela.
Ce sont les couleurs
qui vont s'écrouler.
Tu as de la chance, on est jeudi.
Ah oui, c'est vrai.
Le jeudi, elle, ça part.
Ouais, très le bien. Jeudi, ça je va, content. Ça passe.
Pourquoi
j'ai aucune idée. On passe à l'année 2021.
Oui, oui mais il parle aux oiseaux. Ouais. J'adore cette chanson. Au soleil et au feu. Ça, tout est dit.
C'est la période drogue, ça.
Ouais. Bonne drogue. Elle était bonne. À l'époque,
Gérard,
elle était bonne.
Le Normand.
Oui, c'était la fin de Munch, c'est ça.
Ouais.
Et je me souviens sur la série Munch avec Isabelle, on s'amusait à.
Isabelle Nanty.
On s'amusait à chanter tous ces tubes de l'époque. Je reviens te chercher, moi, tout ça. cette belle variété française. Et j'étais tombé là-dessus. Et c'est sublime. Gérard Le Normand. Alors, je passe pour un vieux ringard, mais tant
non,
pis. Non, auprès de mon fils, pas auprès de vous.
Ah oui.
Papa parle de Gazo, Damso, tout ça. Je dis, bah non.
De 2016 à 2021, vous incarnez Maître Bélanger dans la série Munch avec Isabelle Nanty, notre camarade Tom Villa aussi. Vous êtes avocat, meilleur. Vous, dans cette série judiciaire, vous êtes homosexuel, vous êtes avocat d'affaires, ouais, c'est ça.
Tu sais, noir, ça suffisait pas. Non, mais on a l'impression que c'est des handicaps. Non, bah, voilà, j'étais noir, homosexuel, avocat, bon voilà, il n'y a rien. De... Mmh. On est en 2025, les enfants, il faut se réveiller, il n'y a rien de grave dans tout ça.
Non, on n'a jamais dit le contraire.
Ah non, je disais pas. C'est des auditeurs.
Je suis un peu comme ça.
Certains auditeurs, ceux qui arrivent d'Europe 1, qui écoutent France Inter.
Ils sont pas nombreux.
Moi, j'en suis encore à la crème de la crème.
C'est pas...
On passe à
ça. La crème de la crème.
Je ne veux pas dire l'accent antillais. C'est beau les accents.
Tu le fais hyper bien.
2022, dernière date. Vous reconnaissez ?
Moi j'ai demandé Camille Saint-Saëns, Carnaval des Trés.
Ah, c'est l'intro, ça va monter.
Ouais, il doit être comme.
Ça met du temps.
Ouais.
C'est le lion.
Merci. Ouais, c'est pas la partie la plus.
Bon, c'était pour, parce que c'était par rapport à Cannes.
C'est un moment de radio bizarre.
Mais bien. Vas-y, vous êtes sur France.
Vous êtes au Festival de Cannes à cette époque-là.
Ouais.
Et vous êtes membre du jury de la Caméra d'Or.
Oui, Caméra d'Or, premier film. C'était super. J'étais tellement heureux là. Et je remercie encore Thierry Frémaux. Il y a quelques années, quand j'avais fait La Première Étoile, il nous a fait tous venir à Cannes. On avait monté les marches en moon boots. Et puis, on est resté assez proches. Comme ça, malheureusement, mes films n'ont pas ne sont jamais allés à Cannes en sélection. C'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui s'est créé avec Frémaux. La passion du cinéma. Et il m'a donné ce droit d'être membre du jury du Festival de Cannes. Et ça a été un moment magique. Magique, très important pour moi, d'une espèce de validation. Donc c'était un grand moment de bonheur.
On reçoit Xavier Le Harpeur à ce micro. Bonjour Xavier. Bah non, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu.
C'est vrai.
Bien sûr, notre monsieur cinéma série aussi sur France Inter avec votre chronique Le Temps des séries le samedi et le dimanche à 6h53. Et puis on retrouve votre voix, votre audace et vos avis éclairés dans Le Masque et la Plume.
Tranché, on va dire.
Toujours tout tranché.
Exceptionnel.
C'est vrai.
Tronçonné même.
On veut évoquer avec vous un mythe de la télévision, c'est Columbo qui a servi, comme l'a dit Lucien, un peu de modèle à son personnage personnage de Joseph. On refait un peu l'historique ensemble de Colombo, création, qui l'a créé, quand ça a commencé, tout ça.
Alors absolument, ce sont deux auteurs, Richard Levinson et William Link, qui ont créé le personnage d'abord dans une nouvelle, ensuite ils l'ont adapté une première fois à la télévision, puis une seconde fois au théâtre, avant que la série ne commence à poindre son nez, son idée en tout cas. Au début, c'était juste des unitaires, et puis peu à peu, le personnage, effectivement, de Columbo, interprété par l'immense Peter Falk, a séduit le public, et c'est devenu une série avec des saisons. Alors c'était un peu parfois aléatoire, il y avait 8-7 épisodes, ça n'avait pas la régularité que l'on prête généralement aux séries, des unitaires à chaque fois. C'est vraiment une référence dans l'histoire de la télévision.
Ouais, il y a eu beaucoup d'épisodes, je crois.
Ah, c'est un chiffre qui va plaire à tout le monde ici, 69.
Daniel.
Ça lui dit rien. Non, ça, oui.
Il a oublié. Il a oublié. Dévoiler le criminel au début d'un épisode, ça, c'était quand même assez révolutionnaire.
Alors, pour la télévision, oui, parce que le principe du whodunit qui a fait le coup, c'est quand même ce qui tient le mieux en haleine les spectateurs. Il y avait quand même un petit malin qui s'appelait Alfred Hitchcock, qui avait déjà effectivement réfléchi au genre, la loi du silence, le crime était presque parfait. Et c'est intéressant parce que ça vous permet de travailler autre chose, c'est-à-dire la psychologie du méchant, comment est-ce qu'il va justement éviter d'être arrêté. Ça change complètement l'identification au personnage. Évidemment, on est toujours du côté du gentil, sauf moi. Mais enfin, normalement, du côté du gentil, de la loi, de la justice, être du côté du méchant et finir par espérer qu'il s'en sorte, parce que c'est ça le secret aussi de Columbo, c'est que c'est interprété, les méchants sont interprétés comme dans Joseph par des gens qu'on adore, et on a presque envie que le flic trébuche et laisse partir l'actrice ou l'acteur qu'on adore.
Et souvent, c'est un guest, c'est quelqu'un de connu qui est dans
Alors voilà, qui ont été ces meurtriers dans Columbo, les plus connus?
Vous avez Cassavetes devant vous, il y a John Cassavetes dans le premier épisode de la saison 2, Symphonie en noir, Gina Rowlands, qui était l'épouse de Cassavetes.
Robert Conrad.
N'est que la victime.
Ah, vous dites Cassavetes, vous dites Cassavetes.
Ouais.
Oui, non, mais je ne savais pas, je
moi
j'entends.
Non plus. J'improvise.
Moi, j'apprends.
Et puis, parce qu'il y avait une immense fidélité de Peter Falk. C'est vrai que grâce à Columbo, il a acquis une notoriété et une aisance quand même financière qui était importante. Et il s'en est servi régulièrement pour venir en aide aux copains qui avaient moins de travail. Cassavetes n'en avait pas autant que ça. Ses films ne rapportaient pas grand-chose. Gina Rowlands aussi, immense comédien, mais oublié par Hollywood. Et il a été particulièrement fidèle à quelqu'un que j'aime parce qu'il a écrit la plus grande série d'histoire de la télévision. C'est Patrick McGowan qui avait écrit
Le Prisonnier. Plusieurs fois.
Il a joué plusieurs fois. Il venait vraiment en aide aux copains. Ben Gazzara, qui était aussi leur comparse, a réalisé un épisode de Columbo. Donc,
Johnny Cash.
Tout ça, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment une entreprise affective, collective. Et ça rejoint une idée, c'est que Columbo, c'est pas moi qui l'ai théorisé, c'est Lilian Mathieu. C'est un héros communiste.
Comment ça? Alors ça, c'est intéressant.
Parce que c'est la lutte des classes. Lisant, on a parlé tout à l'heure. Oui. Effectivement, c'est un petit bonhomme, un père, fonctionnaire, invisible aux yeux des puissants. C'est toujours sur les collines de Los Angeles que ça se passe. C'est toujours des gens qui ne le voient pas venir. Des chefs d'entreprise, des chefs de restaurant.
Louis Jourdan.
L'immense Louis Jourdan est un horrible Machiavel. Critique, non pas cinéma comme moi, mais culinaire. Et je trouve que dans Joseph, pardon, je vous rends la parole tout de suite, ils ont utilisé ça de façon très maligne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus l'impère, c'est plus le cigare, c'est plus. Mais c'est la couleur. Oui, et par deux fois, dans les trois épisodes, je n'ai pas encore regardé l'intégralité de la série, et ben on envoie le pauvre Joseph à la cuisine pour laver la vaisselle, évidemment, et on le vire tout de suite d'un parcours de golf.
Et,
et c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, non seulement ils sont invisibles, Joseph comme Columbo, mais en plus, on les déclasse spontanément.
Et ils ont aussi une vie sentimentale alors plus ou moins visible selon Columbo ou selon le personnage de Joseph, parce que dans la Bible il y a quand même quelques éléments établis. En effet, pour Columbo, il y a l'impère, il y a la voiture, il y a le chien quand même, la saucisse, c'est une saucisse, c'est ça, le chien, c'est une saucisse, le cigare aussi quand même, parce qu'il est, il a un petit côté pas très propre,
bagnole sale,
c'est un peu bof.
Non mais on est à Los Angeles, une bagnole comme ça devrait être interdite normalement par la loi, et Columbo est le dernier à l'avoir.
Et cette fameuse femme qu'il évoque sans cesse, qu'on ne voit jamais.
Alors non, on ne la voit pas, elle a eu droit à une série. Tellement les gens étaient frustrés. Madame Colombo, ça n'a pas marché. Mais c'est une très très bonne idée. C'est-à-dire mettre hors champ la vie maritale de Colombo, ça crée quelque chose qui fait un peu crisser les spectateurs, qui les agace un tout petit peu. On n'est pas dans le côté mielleux.
Oui.
En revanche, Colombo, toujours très fidèle, a fait jouer son épouse, Peter Falk, 6 fois dans la série. Voilà. Donc,
Alors, à la différence de Joseph, dans Colombo, quand on suit attentivement, on voit, selon les plans qui sont réalisés, à quel moment le meurtrier oublie quelque chose. Vraiment, j'ai l'impression. l'impression que c'est plus explicite.
C'est un petit peu plus explicite, c'est extrêmement sophistiqué. Moi, je pense que l'un des meilleurs épisodes de Columbo, c'est quand il va faire trébucher la criminelle, parce que c'est très égalitaire, c'est très paritaire. Ouais. Les femmes aussi tuent, et avec beaucoup de talent.
Comme chez Lucien Jean-Baptiste.
Sur le vieux principe du changement de bobine au cinéma, quand vous aviez un spot blanc pour vous annoncer, et il arrive à prouver qu'elle a détourné effectivement l'horloge. Pour... Et ça, c'est une mécanique absolument géniale. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de sang, sauf celui du crime, bien évidemment. Et il y a même un épisode, peut-être ne le savez-vous pas, où il n'y a pas de meurtre.
Comment ça ?
L'épisode 60.
C'est une disparition ?
Absolument.
Ouais. Mise en scène d'une disparition, ça me dit quelque chose. On peut les retrouver, j'espère, en ligne. C'est Columbo.
Oui, vous pouvez trouver des coffrets. Une excellente collection DVD pour ceux qui, les vieux comme moi, qui savent ce que c'est qu'un DVD.
Oui.
Les jeunes, bon, évidemment,
ils ont oublié.
Et TV Braise et TMC les diffusent régulièrement. Deux chaînes de TF1.
Quelle joie.
Je peux vous dire que pendant le confinement, ça a été un des énormes succès d'audience.
Pourquoi des grandes chaînes ne reprennent pas Columbo le soir tard ? Ça serait, je pense que ça fonctionnerait.
Enfin, TMC le fait régulièrement.
Oui, mais je pense de
Columbo, vous pouvez le voir à peu près deux, trois fois par semaine, mais pas, heureusement, le jour de diffusion de Joseph.
Pas Joseph, non, le jeudi 6 mars. Dernière question.
C'est que des chaînes TF1, donc ils ne sont pas cons.
Dernière question, Xavier Le Harper. Avant Peter Falk, il y a eu d'autres acteurs ?
Alors oui, il y a eu deux acteurs, effectivement, qui l'ont interprété une fois, donc dans le téléfilm initial et au théâtre, il faut que je retrouve simplement Bert Fred, voilà, pour l'épisode de 60, Thomas Mitchell au théâtre, et j'ai envie d'ajouter Serge Sauvion, le papa de Marc
Lavoie,
que les auditeurs connaissent bien.
Je vais dire ça à ma femme, monsieur.
Et, et il a vraiment interprété le personnage de Columbo, et Peter Falk l'avait d'ailleurs félicité, et c'est vrai que pour nous, Français, c'est quand même amicalement vôtre, c'est très compliqué de le regarder en VO.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de ces séries-là, impossible.
Et dire aussi qui a réalisé le premier épisode, qui est quand même un fait...
Spielberg. Oh, un petit qui n'a pas fait...
Oui, Steven.
Mais ils y sont tous passés. Cavavetes en a fait un, Jonathan Demme en a fait un, Richard Quinn, qui était un grand metteur en scène de la comédie des années 50, en a fait trois. Là aussi, il faisait venir les gens qui voilà, tiraient un peu la langue. C'était formidable, c'était humain, c'est historique.
Il n'est pas si tranchant que ça, vous voyez, Xavier Le Harper, il a un cœur, il aime Columbo.
Non, mais je l'ai loué pour l'émission.
Ah,
je
ça va. Merci, merci, non, Xavier. On va retrouver dans Le Masque et la Plume, dans Le Temps des séries, le samedi et le dimanche à 6h53, Tanguy Pastureau est avec nous. De quoi on parle tout à l'heure, Tanguy?
Et ben, je vais vous parler de l'effet waouh. Vous savez, ce truc dans le commerce qui nous éblouit, qui nous fait sortir la carte bleue. L'effet waouh est une arnaque. Je prends position aujourd'hui.
Restez avec nous jusqu'à 12h30. Sur France Inter avec une certaine moitié.
Bonjour.
Emma Beaujean.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Tristan Lopin.
Bonjour.
Olde de Lave.
Oui.
Daniel Morin. Et notre invité, Lucien Jean-Baptiste.
France Inter. La bande originale. Leïla Kanou.
Lucien Jean-Baptiste qui nous rend visite pour nous présenter son Joseph, son enquêteur, dès jeudi 6 mars. Deux épisodes sur TF1 à partir de 21h, après le journal tout simplement. Une série que vous avez coécrite avec Sébastien Mounier et que vous réalisez. Six épisodes de 52 minutes, trois soirs, donc sur TF1 à passer avec ce Joseph. Ce Joseph qui est un enquêteur, un fin limier, mais qui n'a pas l'air comme ça, a priori, d'être un enquêteur hors pair. Il est discret, il est attentionné, sympathique, il est tendre en fait.
Oui, on se méfie pas de lui, c'est son arme en fait. Il a pas de don particulier, si ce n'est que de se faire passer pour un autre et d'être sans danger. Du coup, on se livre, on se délivre et puis...
Et jusqu'au bout des enquêtes, il reste tendre avec même les assassins face auxquels il se retrouve.
Oui, avec Sébastien, on n'a pas pris de serial killer parce que là, vraiment, on est dans un truc...
Sombre.
Voilà. On a voulu vraiment qu'il y ait une espèce d'empathie à la fin. Avec le tueur, moi je suis peut-être trop empathique ou sensible, mais on a droit à une deuxième chance. Et puis il y a des, comment vous dire, il y a la vie parfois vous pousse à faire des grosses bêtises. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un moment d'empathie sur ce gâchis. Il y a un gâchis, que ça soit le tueur ou la victime, il y a un gâchis général. Souvent on dit ah bon, l'autre faut le pendre au écourt. Il a une maman, ce garçon, qui a fait sa connerie, etc. Il y a beaucoup de douleur et je voulais pas que à la fin il y ait une espèce de triomphaliste. Ça y est, je l'ai niqué, je l'ai foutu en taule. Non, faut voilà, c'est j'aime bien ce
oui, cette
y a jolie imitation de Derrick.
Moi, j'imite bien Columbo. Monsieur.
Il y a des cas de vengeance, il y a des cas où des personnages sont
ils sont coincés.
On les fait chanter et le meurtre, sans le justifier, arrive dans ces circonstances-là. On va dire ça comme ça.
J'ai pas été très clair, mais avec Sébastien, on a regardé énormément de faits divers. Et le nombre de faits divers, de meurtres qui auraient pu être évités simplement par un divorce. Tu vas voir ta femme, tu lui dis, écoute, j'ai rencontré Martine, machin, c'est fini, on s'en va.
Rencontrer Martine.
Bah non. Faut aller massacrer, la couper, la mettre dans le jardin, et le plomb dessus, et prendre le livret A. Et c'est... non, mais c'est ça, c'est dingue le nombre de faits divers qui...
Donc divorcer. Qui auraient pu être évité, absolument.
Ouais. Divorcer,
vous faites des
les
conciliations
gars.
Conjugales, comme c'est le cas de votre personnage, Joseph, qui fait une sorte de conciliation pour divorcer de sa femme Claire Borotra, mais finalement, cette histoire d'amour n'est peut-être pas si terminée que cela. On verra bien ce qu'il adviendra si on a une saison 2, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, ce Joseph élucide des meurtres dont nous sommes témoins dès le début de l'épisode, qui nous permet d'aller dans plein d'univers différents, que ce soit celui de la gastronomie, de la voile, du golf, des orchestres ou de l'histoire, même des organisations de mariage, des endroits plutôt festifs et élégants, où votre personnage est confronté à des personnes d'une classe sociale supérieure. Et lui est là pour venir rendre justice. La police française tout simplement. On continue d'en parler dans la bande originale. Tout de suite, c'est Tanguy Pastureau.
En ce moment, je cherche un appart. J'ai appelé l'agence, ceux de l'émission sur TMC, parce qu'ils ont l'habitude des stars. J'ai dit Pastureau, ils m'ont dit qui ? J'ai dit je cherche un appart, ils m'ont dit combien ? J'ai dit le budget, et alors Boulogne-Billancourt doit être en zone blanche parce que ça a coupé, c'était impossible de les revoir. Et c'est dommage parce que j'adore l'agence. Oh, l'immobilier de luxe. C'est un monde à part. Parfois, vous savez, il y a un couple de trentenaires qui ressemble à rien, look de déglingos, cheveux gras. Tu te dis Martin Kress va les envoyer bouler. Il leur demande vous avez un budget de combien ? Et là, ils répondent entre 6 et 7 millions. Wow. 8 millions, on peut monter à 8 s'il y a coup de cœur. Là, intrigué, Martin Kress leur demande ce qu'ils font dans la vie. Et c'est jamais un métier où tu peux répondre ah bah oui, je vois. Non, c'est toujours des trucs de junior investisseur dans la tech. La femme à un moment dit par contre, il va me falloir un étage pour mon yoga et l'atelier macramé de mon chaman personnel. Tandis que ces gosses hurlent en massacrant l'appart. Mais ça passe parce que ce sont des gosses de riches, alors c'est mignon. Théo Smic, tes enfants font la moitié de ça. Valentin Kress en personne appelle l'aide sociale à l'enfance pour qu'on les retire de la salle à manger avec des pinces pour pas les toucher. Dans l'immobilier de luxe, il n'y a pas un client qui reste sur place. Ils font tous un an à Jakarta dans un manoir, puis 16 mois à New York, loft avec terrasse, puis Londres, Genève, Barcelone, Miami, tout ça en 4 ans. Et là, ils disent à Martin Kretz, on aimerait se poser, quoi. Les enfants parlent 17 langues, ils confondent. Hier, le plus petit m'a dit Donde esta, der peluche of teddy bear. Donc, on a prévu de passer aller au moins 30 jours à Paris. Voilà, on cherche un F-27 avec héliport, vue sur la Tour Eiffel, masseuse tantrique et salle de cinéma, mais il faut que Luc Besson en personne serve le pop-corn. Et les types de l'agence ? Ils y arrivent. J'ai bien observé le truc. Ils ont deux techniques lors de la visite. Un, garder le meilleur pour la fin. S'ils ont lu une lueur malsaine dans le regard du client, pour finir, ils ouvrent une porte sous l'escalier. Il y a un squelette avec des menottes en feu rouge. Et ils vous disent, ça c'était Jean-Louis, il est mort de plaisir là-dedans en 2012. Deux, ils misent sur l'effet waouh. L'effet waouh, c'est le truc qui va faire basculer la vente. L'appart est moyen, la moquette est laide, les voisins ont l'air cons. Puis, on ouvre la fenêtre de la chambre, et là vous êtes en face du pied-à-terre parisien de Brad Pitt, qui est à poil. Son sexe éléphantesque se balade avec harmonie entre ses cuisses. Se referme. Effet waouh, le compromis de vente est signé. Les Kretz eux-mêmes utilisent ce terme parce qu'en fait, dans l'émission, vous savez, il y a des moments où ils commentent la visite. Oui, non, Estelle n'a pas été séduite, c'est une cliente très exigeante, ça veut dire friquée. Hein. Ah, c'était bien, mais il n'y a pas eu d'effet waouh. En général, ils ajoutent, mais c'est pas grave parce qu'on est en contact avec Kylian Mbappé qui a prévu d'acheter Saint-Ouen. Il va raser la ville pour construire sa villa. Mais surtout parce que ce soir, en fait, les 132 ans de Majo. Un Majo, c'est la grand-mère. Et en effet, le soir, ils sont dans un restaurant de luxe, alors qui ressemble au buffet du petit-déj de l'hôtel Campanile. Enfin bon, disons que comme point commun, on mange des choses, mais enfin c'est tout. Majo à 23h, pardon, finit par dire allez-y, c'est pas tout ça, mais enfin, vous avez un avion à prendre. Et chacun part, soit à Bali, soit à Punta Cana, soit aux Bahamas, pour des vacances qui ne sont jamais des vacances, parce que même en Somalie, les mecs sont capables de dégoter un château avec pont-levis à 127 millions. Et c'est marrant ce truc de l'effet waouh, parce que l'expression est passée dans le langage commun, comme frérot, ou en vrai, ou genre. Les gens disent ouais, alors ce date avec ce Olivier, là, j'ai pas eu d'effet waouh, un total mytho. Il m'a dit je travaille avec Nagui sous le nom d'Oldelaf. Oh my god, what the fuck, j'y ai trop pas cru, tu vois. Exemple à Rouen, c'est beau Rouen. La cathédrale a fait un effet waouh à Claude Monet, qui l'a peinte genre 700 fois, en vrai. Tu vois.
En vrai.
Et à Rouen, il y a eu une vente de fringues de la marque Chine dans un magasin.
Et Libération, le journal qui a cherché à me fâcher avec Zao de Sagazan, a titré « Après l'effet waouh, la déception ». Les clients devaient penser que c'était de la qualité, puis en frôlant le tissu, ils sont aperçus qu'il se décomposait. Vous voyez qu'un journal sérieux parle d'effet waouh, c'est vraiment que l'expression est entrée dans les mœurs. L'effet waouh est partout, à Notre-Dame de Paris, les nouveaux vitraux, on avait parlé d'effet waouh. Et je suis tombé sur un article de Ouest France intitulé « Des lamas dans un EHPAD d'Alençon, avec eux, il y a toujours un effet waouh ». Forcément, t'es là à faire des scrabbles à l'EHPAD, tout à coup, on fait entrer 12 lamas dans la salle. Non, mais je veux dire, tu es étonné. Et c'est tout le problème avec l'effet waouh. C'est qu'il en faut toujours plus pour faire waouh. On est dans la surenchère. Au départ, dans cet EHPAD, ils ont dû mettre des teckels, quoi. Petite léchouille, chien adorable. Mais les personnes âgées se sont habituées et ont demandé plus grand, plus fort, plus dingue. Donc, ils sont partis sur des chèvres, puis des lamas. L'article date de septembre. Je pense que depuis, à l'EHPAD, ils ont un dragon de Komodo, des fourmiliers, un varan qui a mangé Madame Sanchez, qui a 87 ans. Et en fait, l'effet waouh, c'est toujours une arnaque. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc chouette, mais qui va rendre invisible tout le reste, qui est terne et nul. Oui, mamie a de nouvelles dents, effet waouh. Mais si vous parlez avec elle, elle continue à voter à gauche, et tout s'effondre. Regardez France Inter, Emma Beaujean arrive, effet waouh, ouais. Nouveauté. Mais qui est-ce qui tient la baraque? Daniel Morin, deuxième recordman mondial en nombre de minutes passées à l'antenne. Il est juste battu par un tchèque, mais bègue. Alors forcément, le temps de donner la météo, nous on fait trois fois le masque et la plume. Arrêtons avec l'effet waouh, et si la famille Crête s'écoute, coucou, ici Pastureau, je cherche un appart.
Bravo, Tanguy. Aidez Tanguy à trouver un appart et allez le voir sur scène.
Et pourquoi pas à Toulon ? Parce qu'il y sera demain pour son spectacle formidable et après-demain à Tours.
L'effet waouh.
C'est marrant, je rebondis deux secondes. C'est très juste parce que maintenant, quand on cherche des décors au cinéma, et notamment pour la série, il ouais, faut qu'il y ait un effet waouh. Oh. Bravo, bravo, bravo.
C'est Instagram aussi beaucoup de ça. Hein. C'est oui. Des petites photos sur les réseaux.
Mais vous avez réussi, en tout cas, à chaque lieu, à nous transporter dans des univers quand même assez fous. Vous avez eu beaucoup de temps de tournage pour cette série. C'est quoi cette économie?
Pas plus que d'habitude, c'est 10 jours par épisode. Donc c'était un rythme intense parce que justement, on voulait de la qualité. Et donc ça a été, je vous assure, rock'n'roll, quoi. Très, 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 très difficile. Parce qu'évidemment, je réalisais, parce qu'évidemment, Lucien, il veut tout faire. Et
oui,
donc,
ça simplifie pas la tâche.
Non. Vous savez, la différence au cinéma et à la télé, c'est qu'au cinéma, on a plus de temps de tournage par jour. Là, on a beaucoup moins de temps et plus de scènes à tourner. Donc, ça a été une course sans fin. Il n'y a pas eu trop de moments de rigolade, en plus, avec une météo capricieuse. Mais on s'en est sorti.
Vous avez tourné où?
Alors, on a tourné en Pays de Loire. C'était très important et on a eu deux régions et la Normandie. Du côté de Cherbourg. Mmh. Très beau bled, le Cotentin, je le dis. Ouais, même si ça pleut un petit peu, mais très beau bled.
Ouais,
voilà.
Je confirme. Est-ce que c'est prématuré de parler de la saison 2?
Pas du tout. J'ai cette chance. Alors j'espère que ça va durer. C'est pour ça que je suis ici. Si le 6 mars, eh bien, on fait un bon score, TF1 validera la deuxième saison, même si aujourd'hui, j'ai commencé à écrire ce qu'on appelle les arènes, à trouver les différents endroits où vont se passer la saison 2. Donc, pour l'instant, TF1 dit « Ok, banco, on y va ». Maintenant, si le 6 mars, il ne se passe rien, ils me diront « Ah, en fait, Lulu, my bad
bon, ». On envisage une enquête dans un studio de radio avec une équipe où il y a des
distensions. Génial, il y a plein de bonnes idées.
Vous avez déjà plein d'univers à aller explorer.
Oui, vous avez bien vu, je suis un peu fou. Hein,
toujours
sur
le même principe de mettre une distance entre votre personnage et l'univers.
Il arrive toujours dans des endroits de dingue avec des gens qui le prennent très, très intelligent ou très riche. Mais c'est aussi, une fois de plus, l'occasion de faire découvrir des endroits et aussi de parler de certaines thématiques. On va parler de maltraitance animale, on va parler de choses comme ça. Moi, j'aime bien qu'il y a l'enquête, ok, machin, mais il y a aussi je ne choisis pas les arènes, les lieux, par hasard. Mmh. Et par exemple, l'épisode avec Jean-Marc Barr, je parle de la relation père-fille, parent-enfant. Voilà, on s'amuse avec ça. On ajoute cette petite chose dans l'épisode.
Oui.
Voilà.
Et ça permet d'envisager d'autres univers. Donc une saison 2, on l'espère, si le 6 mars le public
venez
est
nombreux.
Au rendez-vous. Donc voilà, il faut veiller à ce que le public soit au rendez-vous. Et puis ça donnera l'occasion dans la saison 2 aussi de développer les sentiments de votre personnage, de Claire Borotra, de votre fils.
C'est vrai, de développer toutes ces histoires de famille, le rapport avec ma mère, etc. Moi j'aime beaucoup, le nombre de mes films tournent autour de la famille, donc il est hors de question que je n'en parle pas, contrairement à Columbo, je n'en parle pas dans cette série.
Oui, c'est pas du tout un Columbo, faut le rappeler. Ça n'a même si le départ, on connaît le meurtrier, le reste, c'est du Joseph. C'est simplement
moi, voilà, une idée originale de Lucien Jean-Baptiste. Ça fonctionne très très bien. Et puis surtout, le conseil que je vous donne, c'est d'être attentif aux répliques de Firmin Richard. Parce que oui. moi, j'ai beaucoup ri. Ouais. Parce que votre personnage est obligé de squatter chez des amis qui ne sont pas là, qui sont partis ouais. en voyage, avec des cadres de photos d'autres familles que la sienne.
Il est chez des blonds, on peut le dire. Il a vu chez des blonds et sa mère dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi
Elle est exceptionnelle, notamment quand elle veut convaincre l'école que le rôle d'Othello ne peut être que pour son petit-fils.
Oui,
parce qu'il ne faut quand même pas déconner, il y a un seul rôle de noir dans le répertoire classique, on ne va quand même pas le filer à quelqu'un d'autre.
Vous savez, une fois de plus, je défends mes thèmes, je parle d'imaginaire. Ça fait 400 ans qu'on nous fait jouer à Othello avec des mecs grimés. Ouais.
Des blackface.
Voilà. Bah, moi, je m'en fous, c'est pas grave hein, qu'ils le fassent très bien. Moi, je voulais jouer Iago grimé en blanc, mais là, on va me dire, mais non, vous voyez, c'est ouais. tout. Je parle voilà, tranquillement.
Sauf que ce qui est très drôle, c'est que Firmin Richard reproche à la prof d'avoir choisi un Asiatique.
Ben oui.
Et là, ça devient nombreux. Très, très, très drôle.
Ouais, ouais.
Donc, la crème de la crime, oh, Joseph, oui. le 6 mars, et dans la bande originale, c'est Emma Beaujean.
Oh là, c'est moi. Les amis, aujourd'hui, tout va pour le mieux. Oh. Alors, la question, c'est pourquoi? Eh bien, je vais vous répondre et la raison va vous surprendre. Daniel, oui. Lucien, les autres personnes autour de cette table que j'adore, mais qui sont clairement pour moi un peu moins des figures paternelles, je suis heureuse dans mon couple. Oh, toi qui m'entends là-haut, qui joue avec nos sentiments comme le vent et les flots jouent avec la vie des marins et celle de leur bonne femme restée à la maison. Oula, waouh, un emballement qui se voulait biblique, et qui était en fait clairement misogyne, aussi appelé balle dans le pied. On m'a dit qu'on avait le droit à deux par chronique, que ça montrerait que la lutte contre le patriarcat est loin d'être finie. Et surtout si tu m'interromps toutes les deux minutes, Daniel. Putain, mais c'est pas vrai ça! Tout ça parce qu'on n'a pas voulu regarder ton film argentin avec des sous-titres jaunes sur Arte avec maman hier soir. Putain, désolé, il y avait une rediff de Mask Singer en fait. Gros Ringo, Satan, il a toujours pas compris le concept. Kev Adams, c'est le vrai en fait, hein, c'est pas un masque. Mais je suis tellement heureuse qu'on va même pas parler du mec en question. Là, ça sert à rien, c'est un non-sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que je suis tellement bien avec ce gars que je n'ai plus besoin de mes plans cul. Ah. Alors, on va faire une vente aux enchères comme ça si ça vous intéresse. Okay. Voilà, si ça intéresse quelqu'un autour de la table, vous levez la main et je vous file son Insta à la fin. Alors c'est parti. Le premier, il s'appelle Alain, il a 45 ans, il est marié. C'est le créateur du festival Les Jambons du Rire. Et c'est surtout le producteur de mon spectacle. Oula, ah merde, je savais que c'était une mauvaise idée. Ah non, c'est pas une bonne idée de faire cette vente aux enchères à la radio.
Non.
Vous savez qui m'a dit que c'était une mauvaise idée? Alain, le producteur de mon spectacle. C'est reparti. Donc ça c'est pour toi Malisa, je sais que t'hésites à repartir sur un deuxième spectacle que t'adores mélanger sexe et business et que surtout tu préfères te taper des hommes qui ont des cheveux gris, mettre des doudounes sur manche et qui préfèrent le ski hors piste. Ça ressemble à une métaphore dégueu, ce n'est pas le cas, c'est juste une précision qui m'a permis subtilement de mettre Daniel hors de cause dans cette affaire. On continue avec le suivant, celui-là, il est pour toi Maleïla, puisque c'est un ancien membre du cabinet ministériel de la culture sous Jack Lang.
Ouais.
Mais je ne peux pas dire son prénom, puisque c'est un ancien membre du cabinet ministériel de la culture sous Jack Lang. Bon, par contre, prends un bouquin, parce que sexuellement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bah, qui dit ancien membre, dit membre ancien. On va pas se mentir, Maleïloche. Leïloche, en parlant de Loche, j'en ai une paire pour vous, messieurs, puisque je remets aussi sur le marché une certaine Sophia. Sophia, 20 ans, une étudiante hongroise qui est magnifique, bisexuelle comme moi, qui a un petit cul comme à la téloche et avec qui j'ai eu la chance d'avoir une aventure récemment. On s'est retrouvée dans un jacuzzi dans une chambre d'hôtel. Et attention, je rappelle les règles de l'AF, si tu bandes, tu bois un shot. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec nous qui nous écoutez depuis chez vous. On continue, je remets également en vente un certain Mathieu. Alors lui, c'est trop drôle, on n'arrêtait pas de nous dire qu'on avait rien à faire ensemble et qu'il fallait qu'on arrête de se voir. Après, c'est peut-être parce que j'ai rencontré une cousinade, genre, et qu'on a le même nom de famille, un peu la même tête. Notre grand-mère, elle nous appelait Roméo et Juliette, un surnom qui aurait pu marcher si dans Roméo et Juliette, c'était pas eux, mais la grand-mère qui mourait en glissant dans la baignoire au milieu de la pièce. Bon, et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Jérémy. Bon, faut aimer les garçons très prétentieux, vraiment, il se croit plus malin que tout le monde, il donne la leçon sans arrêt, mais il est beau comme un dieu. Et je me permets de préciser qu'il est beau comme un dieu pour que tout le monde sache que je n'étais pas en train de parler de Jérémy Ferrari. Oh là là, merde, une attaque ad hominem carrément gratos, c'est pas si drôle envers quelqu'un qui a une carrière infiniment plus respectable que la mienne. Ça s'appelle aussi une balle dans le pied, c'est la deuxième. Du coup, je vais rendre l'antenne. Merci pour
votre Emma Beaujean sur scène.
Total cinglé.
C'est ton papa. C'est ton papa. Attendez, moi je suis les chroniques. J'ai cru comprendre qu'il y avait rien.
C'est officiel. C'est Qatar.
Elle en a un peu plus demain. Elle est au théâtre des Mathurins à 19h.
Absolument.
Elle va se brosser les dents. Et elle est le 19 mars à Bordeaux au festival. Les fous rires, c'est génial.
Et Lucien Jean-Baptiste, on vous retrouve le 6 mars sur TF1 pour Joseph.
Mm-hmm.
avec des ambiances plus douces aussi.
Erwan Kermorvan, c'est simplement un génie. J'avais entendu Monsieur Marshall parler de lui en disant que c'était son
Olivier Marshall,
oui. En disant que c'était son Ennio Morricone. Moi, je dirais simplement c'est mon Erwan Kermorvan. Écoutez, c'est... Ouais. Et puis du coup, on a vraiment eu des instruments, de l'orchestre. Voilà, il fallait à chaque début de film, il faut que le spectateur rentre dans une ambiance, et il a fait ça divinement bien.
Et vous lui donniez quoi, le thème de l'épisode?
Il voyait les images, on en a parlé avant, ouais. Etc. Et je lui ai parlé des années 70, de Lalo Schifrin, il est fan, etc. Et vraiment de travailler un son qu'on n'a pas une fois de plus l'habitude d'entendre à la télé. Ouais, voilà.
C'est vrai, et c'est réussi, ça participe à la qualité de cette nouvelle série, Joseph, saison 1. On attend la saison 2 avec impatience, n'est-ce pas, Lucien Jean-Baptiste? On va parler des projets aussi. On vous retrouve bientôt sur France Télévisions dans une émission « Sommes-nous tous racistes ?»
Oh, ben voilà une question.
Voilà, avec Jamie Gourmand, Marie Drucker et Sylvain Delouvet, scientifique. Oui. Racontez-nous un peu le principe de cette émission, ça sera un prime time diffusé au mois de mars.
Alors le principe il est simple, c'est-à-dire que Sylvain Delouvet a créé un certain nombre d'expériences pour voir, c'est vraiment du scientifique, pour voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un face à l'autre, face à la différence.
Exemple, dans une salle d'attente, où est-ce qu'on s'assoit?
Où est-ce qu'on s'assoit, etc.
À côté d'un homme blanc ou à côté d'un homme noir?
Voilà, à côté d'un homme ou d'une femme. Il y a aussi une expérience assez terrible, c'est le vol d'un vélo. Oui. C'est-à-dire quand une jeune fille blonde est en train de scier un cadenas, bah les mecs viennent, tu veux un coup de main, je t'aide, machin, tout ça, et puis tu mets un mec type maghrébin. Ben là, d'un seul coup, ça sort les portables, les flics arrivent vraiment. Ce sont des expériences qu'on fait. Alors, le truc, c'est on n'est pas là pour dire le racisme, c'est pas bien, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre. C'est toujours pareil, essayer de comprendre pour lutter contre ce truc. Après, t'as le droit d'être raciste, hein. C'est pas, enfin, non, mais
l'idée,
tu fais ce que tu veux.
L'idée, c'est de comprendre
les mécanismes inconscients.
Parce que les mécanismes conscients, bon,
c'est... Voilà. C'est qu'est-ce qui se passe dans comment on... Moi, je là, c'est très personnel. Je dis comment en 2025 on peut arriver à détester quelqu'un tout simplement pour sa couleur de peau, sa religion, son sexe, etc. Il faut se poser ces questions. C'est pas je suis pas ultra militant, c'est essayer de comprendre une fois de plus déjà qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce que l'humain, et c'est ça cette émission, parce que je sais que ça va rentrer dans des polémiques, émission de gauche ou de droite, machin, etc. On va essayer de ramener ça à des trucs politiques. Non, c'est ensemble, et si on comprend ce qui se passe, pourquoi il y a tant de détestation aujourd'hui l'un vis-à-vis de l'autre, le communautarisme, etc. Toutes ces choses-là.
C'est placé sous le signe de la science, en tout cas. Ce sont des expériences dites scientifiques, ce qui pourrait permettre d'échapper à une récupération de droite ou de gauche. En tout cas, vraisemblablement, les questions qui sont posées, est-ce qu'on prend autant au sérieux un conférencier s'il est noir?
Avec un accent.
Voilà. Donc, l'accent aussi, on parle beaucoup accents. Et là, c'est pas tant une histoire de couleur de peau, mais selon si on vient de Perpignan, est-ce qu'on autant considéré que si on est parisien de naissance, on va dire ça comme ça. Donc, cette émission, en tout cas, se propose d'observer les réactions des hommes et des femmes.
Oui, de réfléchir à la norme, parce qu'on nous met des normes, des normes. Alors, même au cinéma, on a ce même problème. Le boucher, il est forcément gros, avec une grosse moustache, tout ça, etc. C'est toutes ces normes, ces injonctions normatives, ça s'appelle comme ça, où d'un seul coup, tu dois te référer à ça pour trouver ta place dans la société, etc.
Et c'est pour ça qu'on a Joseph, un flic martiniquais qui résout des enquêtes avec empathie, avec tendresse, avec une façon parfois un peu maladroite aussi de gérer sa vie quotidienne, et c'est ce qui le rend très attachant sur TF1 le 6 mars à 21h10, et puis cette émission sur France Télévisions, Sommes-nous tous racistes? Ça vient aussi au courant du mois de mars. Daniel, il est temps de présenter des excuses.
Désolé pour Olivier Marshall qui m'a appelé pour me dire « C'est quoi cette série, Joseph? C'est n'importe quoi. C'est la merde, ça n'existe pas. Les flics bienveillants, joyeux, qui résolvent des enquêtes sans armes et surtout en buvant de l'eau. Bah, toujours la patate, moi, Olivier. Toujours joyeux, mon Marshall. Désolé pour Tanguy Pastara. Ce nouveau chroniqueur qui a été annoncé en fanfare par Leïla et qui n'a pu avoir sa chance. Vous voyez, il a été viré par Tanguy Pastureau qui est rentré dans une rage folle et qui a mis la tête à prix de ce Tanguy Patanegra. Enfin, désolé enfin pour tous ceux Tanguy. Qui, après avoir entendu Lucien Jean-Baptiste, cherchent désespérément où voir la série Le Petit Grain de Poivre dans le bol de lait.
Yes.
Le souci, c'est que ces séries n'existent pas, mais bon, on va quand même vous faire la bande-annonce. Il est flic, il est noir, C'est un flic noir. Un flic noir dans un monde de blanc. Tout le monde le prend pour celui qui fait la plonge, pour le livreur ou pour un tolard. Non, il est flic et comme il dit, il a sa petite méthode. Il utilise même parfois le manger chien. Est-ce que cette bande-annonce vous donne envie d'aller voir le petit grain de poivre dans le bol de lait ? Probablement non, ça manque peut-être d'effet waouh. Du coup, regardez Joseph sur TF1, c'est bien aussi.
Merci.
Bravo, merci.
Merci Daniel, merci Lucien
merci,
Jean-Baptiste.
Merci, merci, merci. Juste un petit mot, on a parlé beaucoup de couleurs, de machin, tout ça. J'aimerais qu'un jour on se fiche de tout ça, mais ça viendra peut-être.
Mais ça viendra. L'espoir, l'espoir. Écoutez, absolument. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur TF1. Merci à toute la bande. Merci. Et merci à toute l'équipe en régie.
Et demain
nous recevons Sheila.
Oh, yeah.
Demain, c'est la journée disco sur France Inter. Je compte sur vous pour mettre vos habits de lumière. Voilà. Passez une belle journée sur Inter.